Bonsoir Bernard Spitz.
Bonsoir Mme Dutheil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est au titre de la présidence de ce qu'on appelle les GRAC. Alors c'est quoi? C'est un think tank social-libéral, c'est en tout cas comme ça qu'il est souvent présenté. Et on a notamment voulu être avec vous en ligne ce soir parce que vous avez fait publier, il y a de cela maintenant quelques jours, un livre, Le Manifeste de la Dernière Chance, chez Albin Michel, pour ceux que ça intéresse. Je vais même donner le prix, ça vaut 19 euros. Et ce Manifeste de la Dernière Chance est une sorte de programme à destination des candidats. Je vais commencer par une proposition économique. Vous proposez un plan de relance de 60 milliards d'euros et vous dites un plan pour combler le déficit de demande à la suite de la double crise sanitaire et économique et sortir du quoi qu'il en coûte. Est-ce que quand vous avez écrit ce livre, vous n'aviez pas imaginé que la reprise serait si forte que celle qu'on connaît aujourd'hui ?
On a publié plusieurs rapports depuis 2 ans, hein, qui ont été des travaux préparatoires sur ce livre, et on faisait nos annonces macro. Et en réalité, les chiffres qu'on avait donnés, je ne voudrais pas qu'on apparaisse prétentieux, mais nos résultats se sont révélés plus justes et plus proches de la réalité que ceux de la Banque de France, de l'INSEE ou du gouvernement. Parce que, en fait, certes, c'est la première fois qu'on assiste à un phénomène comme celui de la pandémie, mais ce n'est pas la première fois que l'économie se retrouve... rappelons-nous les crises pétrolières, rappelons-nous diverses crises, qu'il y a une espèce de d'à-coup très, très brutal.
Donc pour vous, ça reste important de stimuler intelligemment l'économie.
Oui, et alors par ailleurs, il s'agit aussi de tirer les conséquences du fait qu'on est dans une société où il y a à la fois effectivement le quoi qu'il en coûte à arrêter là, et à stabiliser, et puis il y a aussi tout un ensemble de mesures à prendre, et ça c'est la logique du livre. La logique du livre, c'est de se dire, il va y avoir des élections présidentielles dans 6 mois, qu'un président va être élu, il va avoir une dynamique, il aura probablement la majorité pour tenir son programme. Mais ce que l'expérience prouve, c'est que ce qu'il ne fera pas, ce qu'il n'engagera pas tout de suite, il ne le fera plus. C'est pour ça que nous avons, imaginé tout un ensemble de réformes qu'on lance en 100 jours, un peu la façon dont Mario Draghi procède actuellement en Italie, avec le lancement de toutes ces réformes. Et dans le cadre du plan que vous évoquiez, qui est un plan de relance de 60 milliards, il y a un certain nombre de mesures qui sont à la fois des mesures de dépenses structurante pour amorcer ces réformes. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de comment réduire le poids de la fonction publique sans pour autant réduire le service public. Et bien, on peut le faire à travers, d'une part, un effort considérable de digitalisation de l'administration et en même temps, la mise en œuvre d'une loi qui est peu connue mais qui a été votée en 2019 qui permet de faire un plan de départ volontaire, j'insiste sur ce mot, volontaire au sein de l'administration, comme on sait le faire dans le privé. Et donc, on pense qu'à travers ça, au début, ça coûte, puisqu'il faut payer les gens ces départs volontaires.
Mais vous pensez que ça pourrait amener au départ volontaire, hein, le mot est très important, de 250 000 fonctionnaires pour mieux doter le reste de la fonction publique, hein. C'est ça l'idée. L'idée n'est pas de...
Vous avez plus de 5,5 millions de fonctionnaires, donc de 250 000, ça reste extrêmement faible, mais vous avez tout à fait la possibilité de redéployer les gens. Il ne s'agit pas, en plus, de faire partir n'importe qui, il s'agit d'aller dans les endroits où il y a, grâce notamment aux nouvelles technologies, des gains considérables. Et les 60 milliards dont vous parlez, c'est un mélange de mesures d'investissement, mais c'est aussi un mélange de financement de mesures sociales. Vous dites, à juste titre, nous sommes des sociaux-libéraux. Eh bien, il s'agit d'avoir de l'efficacité économique, mais il s'agit aussi de réduire les fractures. Et donc, par exemple, il s'agit de financer la dépendance. Tout le monde dit, c'est très bien la dépendance. Ça fait 15 ans que tout le monde parle de ça. Personne n'a amorcé le début d'une réponse. Et nous avançons des réponses qui nous paraissent crédibles.
Et pour ça, il faut donc revoir notre façon de gérer le pays d'un point de vue institutionnel. Je rappelle hein, votre proposition phare, 6 ans pour le mandat présidentiel, 3 ans pour les députés, des mid-term au milieu du mandat pour relancer la machine avec un Sénat qui serait recentré sur vraiment les propositions liées aux collectivités territoriales et puis ce qu'on appelle le Conseil économique, social et environnemental, out.
Oui, nous, ce qu'on dit, c'est que, voilà, un président de la République, il est élu. Il a la légitimité, il a la majorité, il fait les choses. Au bout de 2 ou 3 ans, ça se grippe, parce que, d'abord, il y a des choses qui inattendues qui se sont produites. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Soit les gens, dans l'hypothèse que nous formulons, une présidence de 6 ans, qui est renouvelable, au bout de 2 ans et demi, bon, les gens ont une opinion sur ce qui se passe. Donc, soit ils sont contents, et ils considèrent que l'effort qui se fait est un bon effort, que ça donne des résultats et que ça va dans le bon sens, et ils confortent, auquel cas, le président et sa majorité...
Mais s'ils ne confortent pas, c'est 3 ans qui ne servent à rien, puisque c'est une cohabitation derrière.
Alors, si c'est pas le cas, ça veut dire que les gens n'étaient pas contents. Si les gens ne sont pas contents, ils ont le sentiment qu'il va falloir attendre 2 ou 3 ans avant de nouvelles élections, la tentation, c'est de manifester, c'est de protester, ça donne des choses comme, par exemple, les gilets jaunes. Bon, si vous avez un rendez-vous démocratique qui se présente, ça calme tout le monde. Et ça permet aussi de redonner aux parlementaires une responsabilité qui est forte. Alors c'est vrai par ailleurs que dans ces conditions, c'est pas parce qu'il y aurait une cohabitation que c'est forcément néfaste. Il y a beaucoup choses intelligentes qui ont été faites au cours des 15 dernières années pendant des périodes de cohabitation. Après, l'autre point très important, vous l'avez souligné, c'est un rééquilibrage entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Oui, parce que vous pensez que le Parlement doit avoir aussi plus de force, notamment l'Assemblée nationale, pour pouvoir challenger d'une certaine manière le gouvernement. D'un mot, Bernard Spitz. Ce livre est un livre programmatique, on l'a dit, vous êtes donc un think tank social-libéral, mais ce n'est pas pour soutenir un ou une candidate. Est-ce que malgré tout, vous avez eu des retours des différents candidats? Est-ce qu'ils vous ont dit, tiens, ça m'intéresse, ça c'est pas mal?
On a des retours d'un petit peu partout, mais ce bouquin, comme vous l'avez dit, vient de sortir, donc c'est encore un petit peu tôt. J'ajoute dans les propositions institutionnelles un gouvernement de 11 membres, et qu'on détaille, parce que à force d'entendre depuis 20 ans, vous expliquer qu'on fera des gouvernements de moins de 15 et de finir à 43, je pense que là aussi, il y a une espèce de déperdition de l'autorité publique. Enfin, on a essayé, à travers les différents chapitres, de donner des réponses à la fois humbles, parce qu'on n'a pas la science infuse, mais enfin, qui sont tirées d'expérience. Il y a plus de 200 personnes qui ont travaillé sur ce texte, et on pense qu'à travers ça, on a des vraies réponses pour réduire les fractures sur le plan social de ce pays et lui donner ses chances économiques, car il en a. Et notre sous-titre derrière, le manifeste de la dernière chance, qui veut bien dire qu'il y a urgence, c'est quand même des propositions dont on estime qu'elles peuvent redonner confiance au pays et nous redonner confiance dans l'Europe d'aujourd'hui.
Eh bien voilà, je rappelle ce titre, le manifeste de la dernière chance, c'est donc le manifeste des Gracques, hein, ce think tank social-libéral que vous présidez. Bernard Spitz, un grand merci d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve demain à 22h20.